Il faut s'imaginer la scène. Un gars se rend au marché local pour acheter un mouton en prévision d'une fête religieuse en famille. Et là, surprise.
Ouais, au lieu de parler du poids de la bête ou du fourrage, le vendeur lui fait un débrief géopolitique complet.
Exactement. Un vrai briefing digne d'un sommet de l'OTAN. Le vendeur lui parle de la guerre en Ukraine, du prix du baril de brut et des tensions navales dans le détroit d'Ormuz. On dirait presque un sketch absurde, non?
Bah totalement. On pourrait croire à une satire hyper poussée. Mais en fait, c'est la stricte réalité que nous documente la source unique de notre analyse d'aujourd'hui.
C'est fou. Et cette source, pour ceux qui nous écoutent, c'est l'édition de mai 2026, le numéro 129 du magazine marocain iWeek, publié par LODJMM Media. Je suis vraiment ravie de me plonger là-dedans aujourd'hui.
Et moi, je suis ravie de décortiquer tout ça avec toi. Parce que ce qui émerge de cette lecture, c'est que la séparation entre la grande diplomatie internationale et notre vie de tous les jours, bah, elle n'existe plus du tout.
C'est clair. Et c'est exactement la mission de notre exploration du jour. Comprendre cet incroyable effet domino. Comment, en fait, une crise géopolitique majeure finit par s'inviter direct à notre table.
Voilà. Et dans ce cas précis, comment elle dicte l'achat d'un mouton pour l'Id al-Adha ?
Alors, plongeons tout de suite dans cet éditorial du magazine qui est ironiquement intitulé « Cher mouton d'Ormuz ». Le contexte est super clair. On approche du 27 mai 2026, la date officielle de la fête.
Sachant que le mois lunaire, le mois de Doualidja, a débuté le 18 mai et que le jour d'Arafat est le 26. Le timing est serré.
Oui, très serré. Et là, le ministre de l'Agriculture annonce un prix de départ pour les moutons à 1000 dirhams. C'est l'embrasement total, même au Parlement. En lisant ça, j'ai eu une image en tête. Acheter un mouton aujourd'hui, c'est presque comme négocier un prêt immobilier sur 84 mois.
Ah ouais, avec l'option tête et abat inclus, c'est ça, hein ?
C'est exactement ça. Mais sérieusement, cette analogie montre bien le problème.
Elle est frappante, oui. Parce qu'elle illustre la déconnexion totale entre le revenu moyen des gens et le coût de ces traditions. Les crises mondiales, l'inflation, tout ça voyage à la vitesse de la lumière via les chaînes d'approvisionnement.
Et pendant ce temps, les salaires ne bougent pas.
Exactement. Le vendeur de moutons qui te parle du Fonds monétaire international ou du détroit d'Ormuz, c'est pas par passion pour la géopolitique. Il le fait parce que le coût des céréales, le transport, l'énergie, tout ça impacte sa marge de plein fouet.
Du coup, face à cette inflation complètement dingue, on voit dans la source qu'une campagne est née sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle « Khali Yebebe », ce qui veut dire « laisser le bêler ». En gros, un appel au boycott, pur et simple.
Ouais. Un boycott de l'achat du mouton, c'est quand même un mouvement massif.
Mais attends, j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus une seconde. Des appels au boycott sur Internet, il y en a tous les jours. C'est souvent juste un buzz de 48 heures. Est-ce que là, c'est le symptôme d'une vraie fracture ou juste un mème qui a trop bien marché ?
Alors, selon l'analyse du magazine, c'est absolument pas un simple mème. L'éditorial qualifie ça de véritable baromètre national. Et c'est ça qui est intéressant à observer.
C'est-à-dire ?
Historiquement, la classe moyenne, c'est le grand amortisseur social d'un pays. Elle travaille, elle épargne, elle consomme. Et surtout, elle encaisse les chocs économiques pour que le système tienne bon.
Sauf que là, l'amortisseur a l'air complètement cassé.
C'est le mot. Quand une population entière utilise le sarcasme pour justifier qu'elle ne peut plus financer une tradition millénaire, c'est une forme de thérapie sociale.
Ah, je vois. Transformer la frustration économique en autodérision collective.
Voilà, c'est le seul moyen de ne pas sombrer dans le désespoir total. Ce boycott, c'est pas contre la religion ou les éleveurs. C'est un cri d'alerte sur l'effondrement du pouvoir d'achat.
C'est super intéressant. Les gens voient bien que la croissance macroéconomique dont on parle au JT, bah, ils n'en voient jamais la couleur.
Exactement. Le citoyen se rend compte que le véritable sacrifice de cette fête, finalement, c'est plus l'animal. C'est le contrat social lui-même.
Le contrat social qui se met à bêler, quelle image. Mais bon, puisque notre fameux vendeur a mentionné le détroit d'Ormuz, je propose qu'on regarde ce qui s'y passe réellement. Parce que si la viande est si chère, c'est aussi parce que le Moyen-Orient est une poudrière, hein.
Ah, ça c'est clair. Et une poudrière avec plusieurs mèches allumées en même temps. Le magazine nous fait une plongée hyper détaillée là-dedans.
Ouais, on y apprend notamment que Donald Trump a reporté une frappe militaire directe contre l'Iran. Ça a donné une sorte de pause tactique, non ?
Un immense soulagement pour les marchés, surtout. Parce qu'une frappe américaine directe aurait propulsé les cours du pétrole à des niveaux complètement cataclysmiques.
Et du coup, la diplomatie essaye de s'engouffrer dans cette petite fenêtre de tir. On voit que le Qatar joue à fond son rôle de médiateur. Il y a eu cette rencontre très médiatisée à Washington entre le Premier ministre qatari et J.D. Vance.
Tout à fait, le Qatar est au centre du jeu diplomatique en ce moment.
Mais honnêtement, en lisant ces rapports, il y a un truc qui me chiffonne. Si les États-Unis suspendent leur frappe et que le Qatar négocie activement à Washington, pourquoi l'ambiance reste si apocalyptique sur place ?
En fait, la diplomatie fonctionne, mais juste en surface. Faut bien comprendre que le Golfe n'est pas du tout un bloc monolithique. Les intérêts vitaux de ces pays sont diamétralement opposés en ce moment.
Tu peux nous donner un exemple concret tiré de la source ?
Bien sûr. Prenons l'Arabie Saoudite. Riyad pousse de toutes ses forces pour une désescalade. Et c'est pas par pacifisme idéaliste, hein. C'est pour des raisons de survie économique pure et simple.
Ah oui, par rapport à leur fameuse vision 2030.
Exactement. Ils ont misé l'avenir du pays sur ce plan titanesque pour sortir du tout pétrole. Ça demande des milliards d'investissements étrangers.
Et, logiquement, les investisseurs étrangers ont horreur des zones de guerre.
C'est exactement ça. Un conflit régional ouvert, ça réduirait la vision 2030 en cendres. Donc Riyad a besoin d'un calme plat et maintient des canaux ouverts avec Téhéran.
D'accord, je comprends mieux. Mais alors, pourquoi ça coince ailleurs ?
Parce qu'à quelques centaines de kilomètres de là, aux Émirats arabes unis, la lecture de la menace est radicalement différente. Les Émirats ont subi une attaque de drones ciblée sur leur centrale nucléaire de Baraka.
Sérieux, hein ? Une attaque sur une centrale nucléaire ? C'est terrifiant. Il y a eu une fuite ?
Non, aucune fuite radioactive, heureusement. Mais le message envoyé par l'Iran, ou en tout cas par ses affiliés, est glaçant. Frapper une centrale, c'est montrer qu'on a une capacité de destruction totale.
C'est la ligne rouge absolue, en fait.
Voilà. Et cette vulnérabilité pousse les Émirats à durcir leur sécurité de façon drastique. La source cite même l'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, qui révèle un truc incroyable.
Ah oui, le système de défense...
Ouais, Israël aurait envoyé aux Émirats des batteries de son système Iron Dome, avec du personnel technique israélien pour les opérer sur le sol émirati. C'est un bouleversement total des alliances historiques.
C'est fou de voir ça. Et l'Iran, dans tout ça, ils réagissent comment ?
Téhéran ne reste pas silencieux. Ils utilisent le Pakistan comme canal diplomatique pour faire passer un message très clair. Toute attaque contre eux entraînera des représailles, je cite, « sans précédent » contre les intérêts américains et la région.
Ok, donc pour résumer, l'Arabie Saoudite veut la paix pour construire ses villes du futur. Les Émirats s'arment avec l'aide d'Israël pour protéger leurs réacteurs. Et l'Iran promet un embrasement général.
C'est ça. On est très loin d'une vraie désescalade. C'est juste le temps de reprendre son souffle.
Mais ce qui est captivant dans cette analyse de Iwik, c'est de voir que ce conflit ne se limite plus aux drones ou au pétrole. La guerre moderne, elle a muté. Elle s'exporte sur le terrain juridique et sur nos écrans.
Absolument. Le front légal est devenu presque aussi explosif que le front militaire. Les informations rapportées montrent une pression institutionnelle vraiment inédite.
On parle bien sûr de la Cour pénale internationale, la CPI. La source mentionne qu'elle étudie l'émission de mandats d'arrêt contre des figures de l'extrême droite israélienne, comme le ministre Bezalel Smotrich.
Oui, pour des accusations de crimes de guerre et de crimes d'apartheid en Cisjordanie. Et Itamar Ben-Gvir ferait l'objet d'examens similaires.
Et il faut rappeler pour notre public que ces mandats potentiels viendraient s'ajouter à ceux déjà requis contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant.
En parallèle, et toujours selon les documents de notre source, un rapport de l'ONU alerte très clairement sur des actes de nettoyage ethnique et des risques de génocide à Gaza et en Cisjordanie.
On reste, évidemment, très factuel en rapportant ces conclusions telles qu'elles sont dans le magazine. On ne prend pas parti, mais on voit bien que l'étau légal se resserre considérablement.
Et c'est là qu'intervient la mutation de la guerre. Face à cette pression du droit international, comment réagit un acteur étatique ? Il ouvre un front asymétrique, une guerre de l'information.
Et c'est là qu'on bascule dans un scénario qui fait un peu froid dans le dos. L'exploration de ces sources nous amène à une enquête conjointe des journaux Libération en France et Haaretz en Israël.
Une enquête qui révèle une vaste campagne de déstabilisation orchestrée depuis Israël, ciblant des politiciens français, particulièrement ceux de la France insoumise.
C'est édifiant. Le candidat à la mairie de Marseille, Sébastien Delogou, a été ciblé par des images de lui générées par IA. Des faux nus, carrément, diffusés en masse avec de fausses accusations.
Et il n'est pas le seul. François Piquet-Mal, un autre élu, a subi des attaques sur son bilan via des sites web entièrement fabriqués pour l'occasion.
En lisant ça, je me dis que l'intelligence artificielle est vraiment devenue une arme de destruction massive pour les réputations. C'est terrifiant.
La métaphore est très juste. Mais il faut se demander pourquoi. Quel est l'intérêt de perturber une élection municipale à Marseille depuis le Moyen-Orient?
Ouais, c'est quoi la logique derrière cette stratégie?
La mécanique est perverse mais efficace. Face aux critiques internationales, le but est d'affaiblir politiquement ceux qui portent ces critiques dans les démocraties occidentales.
Ah, je vois. En utilisant des armées de bots et des deepfakes, le but n'est pas forcément de convaincre, mais d'instiller le doute.
Exactement. Saturer l'espace médiatique de scandales fabriqués pour détruire la confiance des citoyens envers leurs propres représentants.
C'est la définition même de la guerre par procuration. Si tu ne peux pas faire taire un pays diplomatiquement, tu sèmes le chaos dans sa politique intérieure.
C'est ça ? Tu le paralyses de l'intérieur.
Mais alors, face à toutes ces menaces invisibles, les deepfakes, les drones, comment un État-nation souverain se protège aujourd'hui ? On voit plusieurs exemples dans nos sources de pays qui tentent de bâtir des forteresses.
Oui. Prenons le Maroc, par exemple, qui vient d'inaugurer un nouveau siège central pour la DGSN, la police nationale, à Rabat. C'est pas juste un bâtiment administratif ?
Non, c'est un complexe ultra-moderne de 20 hectares, inauguré pour les 70 ans de l'institution. J'ai vu qu'il y a une immense salle de conférence, un musée, mais surtout...
la cybersécurité.
Voilà, c'est le point névralgique.
C'est une réponse directe aux menaces dont on vient de parler. L'État a compris que la ligne de front est désormais dans l'architecture des réseaux informatiques.
C'est une vraie déclaration de souveraineté numérique. Mais l'outil de souveraineté classique reste aussi d'actualité. La source parle de la réouverture de l'ambassade de Syrie à Rabat après 10 ans de fermeture.
Consécutive au printemps arabe, oui. Et derrière le symbole diplomatique, il y a une mécanique très pragmatique.
C'est-à-dire ?
L'anticipation économique. Complètement. Relancer les services consulaires, c'est bien, mais surtout, la Syrie devra entamer une reconstruction monumentale. Avoir une ambassade ouverte, c'est s'assurer une place à la table pour les futurs partenariats.
Très malin. Et parfois, la forteresse étatique, c'est juste le droit pur et dur. C'est ce qu'on voit au Canada. La justice vient de bloquer net le mouvement séparatiste de l'Alberta, le fameux « Ouixit ».
Une décision de justice très intéressante, oui.
Mais comment un simple tribunal peut arrêter un mouvement de sécession populaire ? Ils ont juste dit non, et puis voilà.
C'est beaucoup plus subtil, en fait. La justice s'est appuyée sur la loi sur la clarté référendaire. Cette loi n'interdit pas la sécession.
Ah bon ? Elle dit quoi, alors ?
Elle exige que la question posée aux électeurs soit d'une clarté absolue et que les implications réelles soient expliquées. En rejetant la pétition du Ouixit, le tribunal a dit « Vous n'expliquez pas concrètement la mécanique de la rupture ».
Genre, que devient la monnaie ? Qui paie la dette nationale ? Ce genre de détails.
Voilà. Qui contrôle les frontières entre les provinces ? Face à cette complexité technique, l'enthousiasme populiste s'effondre très vite. C'est un pare-feu juridique redoutable.
Pare-feu juridique au Canada, pare-feu cybernétique au Maroc, anticipation diplomatique. Ça a l'air robuste. Mais il y a un détail dans Iwik qui montre que la plus grande menace vient souvent de l'intérieur.
Tu penses aux tensions politiques internes ?
Ouais. Le magazine rapporte des tensions grandissantes au sein du RNI, le parti au pouvoir au Maroc, concernant l'accréditation des candidats pour les élections 2026. Pourquoi bâtir un dôme de fer si la maison se fissure de l'intérieur ?
C'est l'éternel paradoxe. Tu peux dépenser des milliards pour tes frontières ou tes réseaux, mais la stabilité repose sur la cohésion politique. Accréditer un candidat, c'est distribuer du pouvoir local.
Et ça crée forcément des déçus.
Si ces arbitrages créent des clans ou un sentiment d'injustice, la machine s'enraye. Gérer les ambitions de ses propres membres, c'est la vraie vulnérabilité d'un État moderne.
C'est fascinant de voir les institutions lutter pour maintenir cet équilibre. Mais pendant que les États légifèrent ou se disputent, la société, elle, n'attend pas. Elle évolue organiquement.
Et elle redessine des frontières que les gouvernements ont parfois du mal à suivre.
Complètement. Et ça nous amène à une statistique de l'INE, l'Institut national de la statistique espagnole, sur la période 2010-2024. J'ai dû relire ce chiffre 2 fois.
C'est une donnée sociologique majeure, c'est vrai.
Sur les mariages mixtes entre citoyens espagnols et marocains en Espagne, 61% impliquent un homme marocain épousant une femme espagnole. Ça renverse totalement le schéma historique.
Oui, historiquement, 64% des mariages mixtes en Espagne, c'était un homme espagnol épousant une femme étrangère.
Mais je me fais l'avocat du diable. Est-ce que c'est une vraie évolution profonde ou juste une anomalie sur cette période ?
Les sociologues sont formels, c'est pas une anomalie. C'est le résultat de 14 années d'évolution. C'est un marqueur d'intégration extrêmement puissant.
Parce que ça montre que les cercles sociaux se mélangent davantage.
Voilà. Avant, la population immigrée était souvent cantonnée à des rôles subalternes, isolée socialement. Ce chiffre à 61% montre que les hommes d'origine marocaine accèdent aux études supérieures, à des postes à responsabilité.
Ils partagent les mêmes espaces sociaux et culturels que les citoyennes espagnoles. C'est une nouvelle horizontalité sociale, en fait. On se marie entre égaux.
Exactement. C'est la preuve d'une diaspora arrivée à pleine maturité, bien loin des clichés habituels.
Et cette maturité nécessite des infrastructures. Ça nous permet de faire un lien avec les flash infos de notre source. Par exemple, le ministre de l'enseignement supérieur marocain, Azzedine El-Midaoui, annonce 26 nouveaux établissements universitaires.
C'est la fabrication du capital humain de demain. Et ce capital s'exporte aussi via le soft power. On le voit avec l'inauguration du pavillon marocain au WUF13, le Forum urbain mondial à Bakou.
Une belle vitrine diplomatique, tout comme le sport d'ailleurs. Ismaël Saïbari a été nommé meilleur joueur de son championnat aux Pays-Bas. C'est super positif.
C'est clair. Mais le sport n'échappe pas à la guerre de l'information dont on parlait.
Ah oui, cette fameuse fake news. Notre source a dû publier un démenti catégorique concernant une rumeur disant que le tribunal arbitral du sport aurait retiré l'organisation de la CAN 2025 au Maroc.
Une pure invention, mais qui obéit à la même logique de déstabilisation que les deepfakes politiques. Cibler le sport, c'est cibler la fierté et le moral d'une nation.
C'est fou que même le football soit instrumentalisé comme ça. Pour terminer ce tour d'horizon sur une note plus douce, le magazine met en avant le livre de Justine Cissé « Et si mon fils m'avait appris l'essentiel ».
C'est un très bel ouvrage sur la transmission inversée, ce que la nouvelle génération enseigne à l'ancienne.
C'est une belle allégorie pour conclure. Au milieu de ce fracas géopolitique, les apprentissages les plus forts se font dans l'intimité d'une relation parent-enfant.
Et c'est ce tissu intime qui forme la vraie résilience d'une société face au choc extérieur.
Absolument. Il est temps de rassembler les pièces du puzzle. On a vu que l'illusion de la compartimentation a volé en éclats. Du prix d'un mouton dicté par la peur nucléaire dans le golfe Persique.
Au mandat de la CPI qui déclenche des guerres d'images générées par IA dans les élections municipales en France.
Exactement. Des forteresses cybernétiques marocaines aux lois de clarté canadienne, tout en passant par les luttes internes des partis. Et malgré tout ça, la société avance et sème, comme le montrent les statistiques en Espagne.
La géopolitique n'est plus une science lointaine. C'est vraiment la physique appliquée de notre réalité quotidienne. Tout est connecté.
Ce qui amène une réflexion inévitable pour ceux qui nous écoutent. Si le prix d'un sacrifice religieux est le baromètre d'un contrat social mondialisé et que les fake news ciblent la ferveur du foot, quel sera le prochain objet ou événement banal qui révélera la prochaine grande rupture mondiale?
C'est la grande question. Ça pourrait être en allumant un simple interrupteur.
C'est ça. Il y a de quoi garder l'esprit grand ouvert. Merci de nous avoir rejoints pour cette plongée approfondie au cœur des dynamiques de notre époque et à très bientôt pour une nouvelle analyse.